Alors, je vais parler de mathématiques et musique de deux points de vue différents et complémentaires. D'une part, je vais montrer comment la musique fait apparaître, dans certains cas, des structures remarquables qu'on peut décrire mathématiquement et dont on peut étudier les propriétés d'un point de vue mathématique. Et puis, dans un deuxième temps, je montrerai comment les mathématiques peuvent proposer des modèles qui permettent de générer de la musique et de simuler des musiques existantes. Alors, le premier exemple, je vais le traiter dans un contexte un peu inattendu, qui est celui des sociétés de tradition orale, sur lesquelles j'ai travaillé, en Afrique notamment, et à Madagascar, où on trouve parfois certaines structures musicales tout à fait étonnantes, qu'on peut décrire mathématiquement. Alors, c'est ce que j'ai fait dans un répertoire d'Afrique centrale, sur lequel j'ai travaillé dans les années 90, chez les Nzakara, qui jouent de la harpe pour accompagner leur chant. Alors, je vais montrer un premier exemple d'une petite formule de harpe qui est jouée, alors c'est joué en boucle, de façon répétitive, avec quelques petites variations, et ça sert à accompagner une improvisation vocale. Alors, sur le plan du rythme, c'est un peu perturbant parce qu'on sait pas très bien, on a l'impression que ça flotte un peu. En réalité, c'est très structuré sur le plan du rythme. Et pour savoir comment c'est organisé, il faut savoir où se trouve la pulsation. Et là, pour le faire, il faut demander à des gens du village de frapper dans les mains en écoutant la séquence. Alors, c'est ce que j'ai fait. Et on obtient le résultat suivant. Les pulsations se placent là où sont les traits verticaux les plus longs, donc il y en a 4 dans la séquence, et puis j'ai indiqué ici les subdivisions de la pulsation, et donc on a 3 subdivisions pour chaque pulsation. Alors, quand on regarde les notes de musique, donc les moments où le musicien pince les cordes de l'instrument, on voit que ici au début ça coïncide avec la pulsation et avec ses subdivisions, et par contre après ça coïncide plus, ça tombe entre les traits verticaux, en l'air en quelque sorte, ça flotte, et c'est ça qui donne ce caractère rythmique très particulier de la séquence. Alors on peut le décrire de manière beaucoup plus précise en utilisant la notation solfégique. On va représenter la subdivision de la pulsation par une croche, hein, qui se divise en 2 doubles croches, et puis il y a des moments où on voit que la durée est un peu prolongée, c'est-à-dire que la note suivante arrive un peu plus loin, et donc on va représenter ça par une croche pointée, c'est-à-dire une croche plus la moitié de la durée d'une croche. Et à ce moment-là, on obtient une séquence très particulière, que vous avez ici sur l'écran, et qu'on peut représenter mathématiquement en notant les croches avec le chiffre 2, puisqu'il y a 2 subdivisions en double croche, et puis les croches pointées par le chiffre 3. Et ça donne la succession suivante, 2, 2, 3, 2, 3, qui est répétée ensuite. Et c'est cette structure-là qui donne à ce rythme son caractère si particulier, avec par moments des attaques qui coïncident avec la pulsation et avec ses subdivisions, et à d'autres moments, des attaques qui sont enlevées. Vous voyez ici, dans cette partie-là, on a les attaques enlevées. Et ça, c'est une caractéristique des rythmes africains. Il y a plusieurs rythmes de la même famille, avec exactement la même organisation, c'est-à-dire qu'on a des durées de 3 séparées par des groupes de 2, avec un élément de plus d'un côté que de l'autre, donc une dissymétrie dans la formule, et c'est ça qui donne le caractère syncopé, pourrait-on dire, de ces rythmes, ce côté très rebondissant, propre aux musiques africaines. Alors c'est ça qu'on peut étudier mathématiquement, et on peut le faire d'autant plus que ce genre de structure se retrouve dans des contextes complètement différents. Je vais vous en donner un exemple. Si je reprends la succession 2, 3, 2, 2, 3, donc avec toujours la symétrie dans les groupes de 2, il y a un objet très familier en musique dans lequel on retrouve exactement la même disposition, c'est tout simplement les touches du clavier. La répartition des touches noires par rapport aux touches blanches suit exactement la même structure. Ici, vous avez entre le Do dièse et le Ré dièse deux touches, une touche noire et une touche blanche. Par contre, entre le Ré dièse et le Fa dièse, vous avez trois touches, Ré dièse, Mi, Fa. Et puis après, on trouve de nouveau deux touches, et ensuite trois touches entre le Si bémol et le Do dièse. Donc on a exactement la même organisation dans les touches du clavier. Alors c'est ça qui a donné lieu donc à des explorations mathématiques, aussi bien sur le plan des rythmes, ça c'est le mathématicien Gottfried Toussaint qui a fait une grande synthèse sur les rythmes asymétriques, aussi bien en Afrique que dans d'autres contextes, par exemple dans les Caraïbes, ce qu'on appelle les claves afro-cubaines, ou bien les rythmes aksak en Europe centrale. Et puis en ce qui concerne les touches du clavier, donc les gammes, la musicologie américaine s'est beaucoup intéressée à ça et a développé un concept de sous-ensemble maximalement réparti par rapport à un ensemble donné, dont on peut... Alors, il existe plusieurs caractérisations mathématiques. On peut en donner une qui est assez facile à exprimer. On représente un quadrillage avec 7 unités en largeur, 12 unités en hauteur, et on trace la droite de pente 12 septièmes. Et on cherche les points d'intersection du quadrillage les plus proches de la droite, et on s'aperçoit qu'on trouve exactement la succession des touches blanches du clavier. Vous avez ici le Do, le Ré, le Mi. Puis entre le Mi et le Fa, on voit qu'il y a seulement une unité, alors qu'il y en avait deux pour les précédents. Et à partir du Fa, on a de nouveau deux unités, Fa, Sol, La, Si. Et à la fin, de nouveau une unité entre le Si et le Do. Alors on peut donner la formule qui permet de caractériser ces points. Flore de I plus 1 fois 12 septièmes, moins 1. Et ça donne exactement l'ensemble des 7 touches blanches du clavier par rapport aux 12 divisions de l'octave. Alors on voit bien que si on avait eu un 6 à la place du 7, les choses auraient été très différentes parce que 12 se divise par 6. Et donc là, à ce moment-là, la droite de pente 12 sixième aurait croisé le quadrillage uniquement au point d'intersection de coordonnées entières. Et on aurait une belle régularité avec à chaque fois des points espacés de 2 unités. Ça correspond d'ailleurs à la gamme par ton dans le clavier, mais la nature en a voulu autrement, puisqu'il y a 7 touches blanches, et donc on a cette structure qui est presque régulière, qui est la plus régulière possible, compte tenu du fait que 12 et 7 sont premiers entre eux. Voilà, et c'est ça qui caractérise ces ensembles maximalement répartis, ils sont les plus proches possibles d'ensembles réguliers. Alors je me suis intéressé à ce type d'objet mathématique dans des sociétés de tradition orale, dans mon livre « Les mathématiques naturelles », qui est en fait une exploration d'une discipline nouvelle qui s'appelle l'ethnomathématique et qui consiste à étudier ce genre de structure, non seulement dans la musique, mais également dans tout un tas d'autres activités de sociétés de tradition orale. Alors, je vais passer maintenant à l'autre sujet de mon exposé, qui est un peu complémentaire, puisqu'il s'agit maintenant de voir comment les mathématiques permettent de générer de la musique avec certains modèles, comme les automates finis ou les chaînes de Markov. Alors, je vais prendre de nouveau un exemple pour expliquer le principe. Il s'agit d'étudier des séquences, donc ça peut être des séquences de notes si on parle de musique, mais ça peut être des séquences d'objets quelconques. On va prendre des séquences de lettres, abracadabra, bradaka. Et on va se demander, dans un contexte donné, c'est-à-dire si on a lu un certain nombre de lettres, qu'est-ce qu'on peut lire après par rapport à la séquence qui a été enregistrée. Alors dans la séquence qui est proposée là, si vous prenez comme contexte les quatre lettres ABRA, ABRA, vous voyez qu'il y a en fait trois transitions possibles. Soit on peut lire ensuite un C, soit un B, soit un D. Puisqu'il y a trois occurrences de la séquence du contexte ABRA, avec à chaque fois une transition différente. Et le point intéressant à observer, c'est que si on modifie la longueur du contexte, donc par exemple si on l'augmente, si je rajoute une lettre, au lieu de prendre ABRA, on va prendre RABRA en rajoutant le R, et bien ce qui se passe, c'est que ça réduit le choix des transitions possibles, alors qu'au contraire, si on avait diminué la longueur du contexte, on aurait augmenté le nombre de transitions possibles. Alors si je prends RABRA, on s'aperçoit que dans cette séquence-là, il n'y a plus qu'une seule transition possible vers le D. Et donc, on a réduit l'éventail des possibilités. Alors, on peut utiliser ce modèle dans un sens génératif, c'est-à-dire qu'on va produire des séquences en tirant au hasard, selon les probabilités de la séquence qui avait été enregistrée, pour produire une séquence qui lui ressemble beaucoup. Alors, c'est ce qu'on fait ici. Je vais générer une séquence en faisant varier le contexte. Alors vous allez voir, le contexte augmente, et puis à un moment il se rétrécit. Alors quand il se rétrécit, c'est là qu'on bifurque, on s'éloigne en quelque sorte de la séquence d'origine, puis si on augmente de nouveau le contexte, on va se rapprocher de la séquence d'origine. Alors on a vu que le contexte s'est réduit au milieu, donc là on a bifurqué, puis il a augmenté, et quand il augmente, on a tendance à recopier la séquence telle qu'elle était donnée au départ. On utilise ces principes dans un travail que j'ai initié avec des collègues de l'IRCAM il y a une quinzaine d'années pour le développement d'un logiciel d'improvisation et qui maintenant est un stade assez avancé puisqu'on peut l'utiliser en concert dans des projets artistiques, alors notamment avec le musicien de jazz Bernard Luba, mais également avec des musiciens de Madagascar avec qui je travaille. Et je vais montrer pour finir un exemple avec Bernard Luba de fonctionnement du logiciel qui est basé exactement sur ce principe. On va capter ce que joue Bernard Luba et à partir de ce qu'il a joué, on va générer des séquences musicales. Le musicien joue sur la piste qui est en haut. Alors les notes sont représentées par les petits segments que vous voyez ici. Ici, c'est la piste de l'ordinateur qui est vide pour le moment. Et ici, vous avez des informations sur la pulsation, donc représentées par les petits points, puis des informations harmoniques également, parce que le logiciel va calculer des phrases selon la structure harmonique sous-jacente, représentée par ces petits tirets. Alors, au début, le musicien joue tout seul, et puis à un moment, il s'arrête, et l'ordinateur prend le relais. Il y a d'autres vidéos sur le site digitaljazz.fr qui montrent les développements récents de ce projet, qui est une autre forme de connexion entre les mathématiques et la musique.